Alors ce soir, nous, de notre côté, nous accueillons un invité de marque avec lequel la conversation, ben oui, parce qu'on lui a parlé, a été à la fois riche et joyeuse. Allez, un indice. Que lui pour repeindre à neuf le blues et le hard rock en les éclaboussant ainsi de zébrures et de distorsions pour chanter et crier de cette voix survoltée avec cette espèce de franchise d'enfant comme s'il jouait sa vie à chaque fois, évidemment, c'est Jack White. Improbable guitar hero apparu au début des années 2000 au sein d'un duo qu'il animait avec sa jeune femme Meg White, je veux parler des White Stripes. Un duo qui, il y a plus de 20 ans déjà, s'est imposé à contre-courant au sein d'un paysage musical largement dominé déjà par le rap et la musique de danse au son électronique. En revenant à la simplicité d'un blues rudimentaire, parfois même d'un country blues archaïque, Jack White s'est imposé. Il est aujourd'hui de retour. Il publie cette année non pas un, mais deux albums. Le premier qui vient de paraître s'appelle Fear of the Dawn. Vous venez d'en entendre le titre introductif Taking Me Back. Et puis d'ici trois mois, en juillet prochain, il en publiera un second, Entering Heaven Alive, composé de chansons plus douces, plus folk. Jack White et son groupe, hein, réduit à l'essentiel, ils ne sont que quatre sur scène, vient d'entamer une tournée américaine dans sa ville natale de Détroit. Et l'Europe suivra cet été. Il sera le 7 juillet à Lyon, le 12 à Carcassonne pour un festival, et les 18, 19 et 20 juillet à Paris, à l'Olympia. Alors, il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu la chance de parler il y a une dizaine de jours au téléphone avec Jack White. Et pour notre conversation qui a duré une quarantaine de minutes, eh ben, il avait réservé un créneau correspondant en gros à sa pause au milieu d'une journée de répétition. Des répétitions qui avaient lieu dans ses studios de Third Man en plein cœur de Nashville. Alors, ce ne sont pas que des studios d'ailleurs, c'est presque un musée où Jack White, qui est une sorte d'archéologue et d'antiquaire à sa façon, entrepose toutes sortes d'engins et appareils étranges liés à l'histoire de l'enregistrement du son, mais pas seulement. Histoire de briser la glace, j'ai demandé à Jack s'il avait toujours le voiceograph. C'est une sorte de cabine téléphonique datant de l'année 1947, une sorte de curiosité préhistorique. Et oui, encore dans les années 60, aux États-Unis, on pouvait s'enfermer là-dedans, que ce soit dans un grand magasin, une gare ou un aéroport, et moyennant une pièce de 25 cents, eh bien, on y enregistrait sa propre voix pour souhaiter bon anniversaire à sa maman, par exemple, ou même dicter son testament, et on en ressortait avec un disque souple d'une minute environ. En 2014, Jack White est arrivé à convaincre Neil Young, armé de sa seule guitare sèche, d'enregistrer un album là-dedans, dans un de ses voiceographs, un album qui s'appelle A Letter Home. Le résultat est étonnant, hein, ça a le son tremblotant et en même temps très présent des 78 tours de jadis. Alors bref, j'ai demandé à Jack s'il avait gardé ce voiceograph dans ses locaux. Bien sûr, il m'a répondu avec enthousiasme, j'en ai même trois, et une de ses cabines se trouve dans ses bureaux à Londres, et il m'a dit qu'elle est disponible pour qui veut, en France, faire l'expérience d'enregistrer dedans, en traversant la Manche, hein, plutôt que l'Atlantique. Alors, je lui ai promis de passer le message, ce que je fais. Alors bon, les entretiens au téléphone, c'est toujours frustrant. Il manque une dimension pour qu'une véritable rencontre se fasse. Mais enfin, depuis sa cabine téléphonique, hein, je l'imaginais bien là-dedans, même si c'était évidemment pas le cas, Jack White s'est montré extrêmement chaleureux, très spontané. Il a franchement éclaté de rire deux fois. C'est plutôt rare dans le cadre d'un entretien promotionnel. Il était même particulièrement volubile. Alors j'ai commencé à lui parler de son album précédent, Boarding House Reach, qui parut en 2018, qui avait divisé ses admirateurs. Certains avaient trouvé ça génial, d'autres s'étaient dit déconcerté, et je lui ai dit que le style jazz-funk de cet album et un certain état d'esprit expérimental me rappelaient Prince, il était plutôt d'accord. Et puis alors voilà, j'ai attaqué quand même l'essentiel, je lui ai demandé pourquoi il publiait deux albums distincts et non pas un seul et unique double album. Je lui ai dit, quand même, il y a une référence dans l'histoire du rock, c'est le double album, le double blanc des Beatles, où on passe d'une chanson comme Sexy Sadie, qui est très douce, très folk, à quelque chose de très enragé comme Helter Skelter, et voici ce qu'il m'a répondu.
You just mentioned my favorite Beatles album.
Ah, mais là, really? Tu me cites mon album préféré des Beatles. Je séchais les cours quand j'avais 14 ans au lycée, et je suis allé m'acheter le double blanc en vinyle. Il est toujours resté essentiel pour moi. Mais tu sais que même aujourd'hui, il y a des gens qui cassent le double blanc, quoi. Ça me révulse qu'on ait la moindre critique envers le double blanc, quoi. Maintenant, en sortant un double album, on se met en position d'entendre de la part du public « Ah, il doit y avoir beaucoup de remplissage là-dedans. C'est trop long, c'est comme un film de 5 heures. Il doit y avoir 2 heures de trop, plein de scènes en trop. » Sortir un double album, c'est prendre un gros risque. Et une des raisons pour lesquelles j'ai préféré sortir deux albums séparés et laisser le public les adopter séparément, c'est que c'est même pas moi qui fais le choix, en fait. Les morceaux s'y sont prêtés d'eux-mêmes. Les chansons se sont regroupées en deux volumes séparés. J'essaie toujours de travailler un matériau éclectique. Même avec les White Stripes, notre goût nous portait à passer de choses très casse-cou à un morceau suivant beaucoup plus sombre. Et puis, repartir sur autre chose. Get Behind Me Satan en est un bon exemple. Et même dans les duos, j'ai souvent fait ça. Mais là, les chansons étaient beaucoup trop sur deux axes opposés. Elles ne collaient pas ensemble. C'est donc la meilleure solution.
Ce que tu suggères, c'est qu'en fait, ils se sont divisés spontanément en deux albums différents. Ça ne t'a pas trop intrigué?
Si je prenais des morceaux comme Love is Selfish ou If I Die Tomorrow, des chansons assez sombres, et que je les faisais suivre par Fear of the Dawn ou Into the Twilight, ça collait pas. On aurait dit que ça venait de deux artistes différents. C'était deux genres séparés. Ça fonctionnait pas. Et il faut que ça fonctionne ensemble. Mais je crois vraiment que les albums choisissent leur musique. C'est eux qui te disent « ça, c'est le morceau qui doit être au début. Ça, c'est la dernière chanson de l'album. Et ça, c'est la première plage de la face B. » À partir de là, c'est l'album qui choisit. Moi, je fais que suivre.
Alors, Jack, personne n'a fait la même expérience de la pandémie et des confinements successifs. Les gens qui écrivent, ça inclut les auteurs de chansons, on peut dire que pour eux, c'était pas un gros changement, puisqu'ils ont l'habitude de s'isoler. Il y en a d'autres qui ont dit que ça les avait au contraire déprimés, paralysés. Alors pour toi, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a eu une influence sur tes nouvelles compositions et ta façon de les enregistrer?
J'avoue que j'étais malheureux que des gens souffrent, meurent, tombent malades dans le monde entier. J'étais pas du tout bien par rapport à ça. Mais en tant qu'artiste, les restrictions et le confinement, tout ça m'a énormément inspiré. J'ai adoré. Ça coïncidait dans ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, à une immense renaissance de tout ce que je connaissais, une toute nouvelle équipe autour de moi. J'ai repris beaucoup de choses dans ma vie. J'ai rénové mon atelier de tapissier de fond en comble en 2020. J'ai travaillé sur beaucoup de meubles, sur beaucoup d'éléments de design. J'ai créé la boutique Third Man à Londres. J'ai créé une société qui produit des battes de baseball.
Tu veux dire tout ça sur un ordinateur en envoyant des fichiers par email?
Oui, et j'ai mis en ligne un site qui présente toutes mes créations pour que les gens voient mes sculptures, mes photographies, mon travail d'architecte d'intérieur, de designer industriel, des choses que je n'avais jamais partagées. Là, en interview, j'en parle maintenant, mais je ne l'avais jamais fait avant, et la pandémie me l'a permis. Ça a été pour moi une renaissance. Je suis très heureux de ces deux dernières années.
There a phase, I mean, in the very beginning where you were a bit depressed.
C'était quand même peut-être une phase qui t'a déprimé au début, j'imagine, parce que pour beaucoup de gens qui sont sur scène, qui tournent, c'est pas très marrant.
Je n'ai pas beaucoup aimé ne pas pouvoir faire ce que je voulais. J'aurais voulu entrer en studio pour enregistrer. Mais plusieurs choses m'en ont empêché. On ne pouvait pas se rassembler pour travailler. D'abord, ça semble injuste. Et puis on s'y fait. Et en fait, le pire, ça a été de me dire, si jamais on enregistre un album, on n'en fera pas de tournée. Et l'album va rester sur les étagères pendant un an et demi ou deux ans. Et ça, c'était une perspective décourageante. Je me disais, quand l'album va sortir, je serai passé à autre chose. Ce sera super dur de monter sur scène pour défendre un truc qui est écrit deux ans plus tôt. Et là, on revient à votre première question. Pourquoi ressortir deux albums? Je n'avais pas envie de reporter un deuxième album à dans deux ans.
C'est marrant
parce que tu as l'air de dire que en fait, tu recherches les contraintes et une discipline que tu t'imposes à toi-même.
Je pense que c'est toujours bon d'avoir une sorte de méthode, même si elle reste douce. On ne voit pas beaucoup ça dans l'art ou la musique d'aujourd'hui. La plupart du temps, c'est toujours le même refrain. Les mecs sont entrés en studio, ils ont fait leur enregistrement sur ordinateur, ils ont bouclé leur album comme ça, point barre. Et la pop d'aujourd'hui, c'est toujours ça. On engage le plus de gens possible, des auteurs, des producteurs, pour arriver à produire un carton. C'est la méthode moderne. Je dis pas que c'est mal. Je dis que tout le monde fait la même chose. Ça m'intéresse d'entendre quelqu'un comme Kanye West parler de sa méthode à lui. Je ne suis pas un énorme fan du mec, de sa personne. Mais j'aime entendre que quelqu'un a une méthode, même si elle est absurde. Une méthode, ça veut dire que l'artiste essaie de trouver quelque chose de différent, quelque chose d'original par rapport aux autres et par rapport à lui-même. Et ça m'intéresse. Si vous avez des règles, si vous vous donnez des règles, si vous les intégrez dans votre processus de création, vous vous donnez aussi le droit de briser ces règles, vous voyez? C'est une contrainte intéressante, parce qu'il n'y a pas de flic au coin de la rue avec une matraque qui va vous tabasser si vous ne respectez pas la règle. Vous avez toute l'attitude pour la suivre, l'interpréter, en faire un dogme ou la pulvériser. Et tout ça, pour moi, c'est fascinant.
Donc, il faut que tu commences par avoir une discipline.
Tout dépend de l'artiste, s'il est strict ou s'il est détaché par rapport à son travail, s'il peut se prêter au jeu.
Trip sur France Inter.
It's gonna
Extrait du nouvel album de Jack White, Heidi Ho, qui échantillonnait un extrait d'un classique des années 30, Heidi Ho de Cab Calloway. Ça, c'était la première des deux chansons. Et la seconde des deux qu'on vient d'entendre porte un nom étrange, Esophobia, un terme savant que j'avais jamais rencontré, qui désigne la phobie de l'aube et de la lumière du jour. Alors, il y a un passage dans une de tes nouvelles chansons où tu sembles t'ouvrir de quelque chose qui te tient profondément à cœur, et je te cite parce que c'est une formule qui m'a beaucoup frappé. Il vaut mieux illuminer que simplement briller. Mais qui te dit ça exactement ? Est-ce que c'est ton ange gardien ?
C'est marrant que tu dis ça, parce que c'est une citation de saint Thomas d'Aquin.
Really? I had no idea.
Je veux pas l'avoir dit.
Oui, c'est parfait que tu l'aies choisi. Moi, j'avais envie de terminer cette chanson, et l'album d'ailleurs, en utilisant les mots d'un autre. Et comme ça parle de l'aurore, de la lumière du soleil, du crépuscule, la citation semblait intéressante. Et je me suis complètement retrouvé dans ces mots. Il y a une différence entre le fait d'être dans la lumière sur scène, de sortir un album pour satisfaire son ego, et d'essayer d'illuminer un sujet et peut-être d'inspirer les autres, de déclencher quelque chose chez eux. Et c'est un peu notre boulot. En montant sur scène, en écrivant des chansons, en passant à la radio, en étant écouté par d'autres êtres humains, notre boulot, c'est d'essayer de partager et de susciter quelque chose chez les gens. Ce serait facile de dire « Ah, le sujet, c'est moi. Je vais écrire ce que je veux, je vais faire ce que je veux, je me fous de la vie des autres, je monte sur scène et bam, prenez-en plein la gueule. » J'ai jamais vu les choses comme ça, moi, pas du tout.
Tu veux dire que c'est mieux d'apporter la lumière aux autres plutôt que de l'avoir sur toi?
Oui, c'est pour ça que j'ai choisi cette citation.
Parlons le premier des deux épisodes. Le titre de ce premier album, La peur de l'aurore. C'est quand même étrange comme formule. Parce qu'en général, on parle plutôt des gens qui ont peur à la tombée du jour, l'angoisse du crépuscule. Mais alors, en général, quand le soleil se lève, on est plutôt joyeux.
Je cherche d'abord à savoir si cette peur, elle existe vraiment. J'avais lu ce mot. Esophobie, dans le dictionnaire.
Mais tu l'as ressenti ?
Non. Quand j'ai lu ça, je me suis dit que ça devait être terrible. Ça ne peut jamais s'arrêter. Parce que tous les jours, l'aube revient. La métaphore que j'en tire, et qui m'a obsédé, elle est peut-être liée à la pandémie, à la sortie du confinement, je ne sais pas. Les gens y trouveront peut-être autre chose. D'habitude, on parle de la peur du noir. C'est une peur compréhensible, ça peut être terrifiant. Mais plus terrifiant encore, c'est de craindre le jour. Ça doit être dur.
Les gens qui sont déprimés, ils ressentent ça, oui.
Mais on dit aussi que quand le printemps arrive, il y a des gens qui se sentent dépressifs, en particulier.
même suicidaire.
J'ai entendu parler de ça. Les gens qui habitent très au nord, là où il n'y a pas de soleil, ils sont plus déprimés. On est certainement toujours victimes de notre environnement. Et parfois, quand il est minuit, si vous êtes dehors, par exemple dans les bois, c'est étonnant de voir à quel point tout peut faire peur. Et puis vous vous dites, mais s'il était midi, si le soleil brillait, j'étais là, au même endroit exactement, je n'aurais pas peur du tout. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est instinctif? On a en nous plein de réflexes destinés à nous protéger, que l'on ait conscience ou pas. Nous avons l'instinct d'avoir peur de ce qui peut nous faire du mal. C'est intéressant d'étudier tout ce qui peut nous faire peur.
Alors pourquoi tu choisis cette expression comme titre de l'album? C'est un peu inattendu.
C'était comme un fil conducteur et je n'avais pas vraiment prévu d'avoir un fil conducteur. J'ai demandé à 8 illustrateurs de penser à une couverture pour cet album et de ne pas chercher à voir le projet des autres. Je ne voulais pas qu'ils aient connaissance du travail des autres. Je leur ai donné une liste de mots pour lancer leur imagination. Crépuscule, aurore, minuit, peur, soleil, midi, des mots qui correspondent aux paroles des chansons, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte du fil conducteur, au point où on pourrait penser que c'est un album concept. Ça me gêne pas que les gens pensent ça, ça me va. Mais voilà les quelques instructions que j'ai données aux illustrateurs. Et j'ai hâte que le public découvre ce qui en est sorti. Les propositions sont si différentes. Et quelque part, de les imprimer toutes dans l'album, ça fonctionne.
So in a way, the title comes out from the drawings and.
Tu as l'impression de dire que le titre vient de ces illustrations, alors c'est.
Yeah, it's wild and. Oui, c'est dingue. That title seemed to. Ce titre collait parfaitement. Et l'illustration qui fait la couverture de l'album, elle est parfaite. La peur de l'aube. Il y a tant de façons de comprendre ce dessin. Qu'est-ce qui arrive à ce personnage? Est-ce que c'est moi? Qu'est-ce qu'elle est en train de vivre? Elle me fait rire, cette couverture. Elle est trop marrante.
Here in the twilight.
cut into the present. The future leaks out.
Got to figure out a way out to go. Instead of moving on ahead, anyway, you come along with the fascinating desert for your bed. Fell to the chant of. I'm going to be on a couple of days, your regular occurrence.
Into the Twilight, une chanson extraite du nouvel album de Jack White, Fear of the Dawn. Jack White, avec lequel j'ai eu la chance de m'entretenir au téléphone voici une dizaine de jours alors qu'il était occupé, ou aux dernières répétitions avec son groupe dans son studio de Nashville en vue de sa tournée américaine qui vient de démarrer et qui passera chez nous au mois de juillet prochain, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans cette chanson, on entend la voix de l'écrivain américain défunt, William Burroughs, qui évoque son idée du cut-up hein, comme technique de création, c'est-à-dire prendre des morceaux épars et les assembler de manière aléatoire. Lui, il pratiquait ça avec des ciseaux et de la colle, autant les ordinateurs, pour les particuliers en tout cas, n'existaient pas. Évidemment, c'est une idée que depuis plus de 30 ans, au moins, les musiciens pratiquent le sampling, c'est surtout dans le hip-hop que ça s'est pratiqué. Le hip-hop que Jack White connaît bien, il a vu et entendu tout ça se développer quand il était collégien et lycéen dans sa ville de Détroit. Alors, j'ai voulu aborder justement ce sujet un peu de la fabrication de la musique avec Jack White et parler en particulier du son. Alors, il y a tellement d'ingrédients dans cette espèce de ragoût musical qu'il a concocté. Chaque note, chaque accord semble comme distordu, dû passer par un alambic bizarre. Parfois, c'est du blues industriel. Parfois, on a l'impression qu'il est comme emprisonné dans une machine à déformer les sons. Il y a des éléments de jazz, il y a des éléments de rythme latin. Parfois, ça évoque presque la musique progressive de la fin des années 60. Et justement, il recourt à la technique du cut-up, hein, théorisée par Burroughs. Alors, c'est quand même bizarre de la part de quelqu'un, c'est ce que je lui ai demandé, qui a commencé à faire de la musique en essayant de la réduire à sa plus simple expression, à ses plus simples éléments, selon une approche spontanée qui aurait pu être celle d'un enfant.
Mais je suis heureux que tu dises ça, parce que ça me montre que j'arrive à atteindre quelque chose, que je me force à travailler. Avant tout, jamais je ne voudrais que ma musique d'aujourd'hui ressemble à celle des White Stripes. Je cherche vraiment à être complètement différent.
Je te rassure, c'est différent.
Mais je me réjouis vraiment de ta réaction. Il y a des morceaux sur cet album comme Heidi Ho avec Q-Tip ou Into the Twilight. J'aimerais beaucoup les faire écouter à des gens qui aiment la musique, à des ingénieurs du son. Parce que, peu importe qu'ils aiment la chanson ou pas, ça c'est pas la question, mais il y a là des éléments qui sont des tentatives de montage, de structure musicale, et ces deux chansons-là, je suis incapable de les rattacher à un genre. Je
ne
suis pas en train de me congratuler, de dire qu'elles sont super, non. Je dis qu'il y a des trucs intéressants dans ces deux morceaux sur lesquels je n'arrive pas à coller une étiquette, à les mettre dans une case. C'est d'ailleurs pas vraiment intentionnel non plus. Mais j'essaye, et voilà ce qui en sort. Q-Tip m'a bien aidé à terminer Idaho. Il y a des choses bizarres dedans. Vous avez parlé de cut-up, et c'est super. Vous avez entendu ça parce que j'ai samplé la voix de William Burroughs, Bart Blanc, with cut-up, dans Into the Twilight. Il y a donc des trucs à entendre pour ceux que ça intéresse.
Il y a un deuxième album que tu vas sortir au mois de juillet prochain, et il y a un côté plus doux, il y a un côté McCartney dans les chansons. Il y a même, je dirais, même Donovan dans une de ses chansons aussi. Comment ça se fait qu'il y a quand même des chansons qui ont fini dans cet album-là et pas dans l'autre ? Pourquoi tu mélanges pas l'archaïque avec le futuriste ? Tu l'as fait dans l'album précédent en 2018.
C'est des chansons qui réclamaient de se retrouver dans leur monde à elles. Ces chansons, elles se retrouvaient toujours dans ma propre playlist sur mon ordinateur. Je me suis dit, il doit bien y avoir une raison. Il leur fallait vraiment un album tranquille et tendre pour le dimanche matin. C'est un peu ce que je veux dire aux gens. Fear of the Dawn, c'est un album du samedi soir, et Entering Heaven Alive, c'est un disque pour le dimanche matin. C'est mon sentiment.
Alors justement, parlons du titre de cet album, Entering Heaven Alive, Entrer dans le paradis vivant. C'est quand même assez surprenant. Je me demandais, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé l'expérience contraire, c'est-à-dire entrer vivant en plein enfer.
Oh my God, man. You know, I guess going to school.
Ouais, le lycée pour moi, c'était sans doute ça, ouais.
Still now, I mean, encore maintenant, bah, c'était quand même, c'était il y a longtemps pour toi.
Yeah, exactly.
You've been for a while.
I talked about it yesterday.
Mais j'en parlais hier avec le groupe. Je leur racontais mes cours de musique au lycée.
Oh yeah? What sort of music classes did you take? Quel genre de cours t'avais?
Il y avait un jeune prof qui avait lancé un cours nommé percussion. Et moi, j'étais complètement dans la batterie. Et uniquement là-dedans, d'ailleurs, quand j'étais ado.
C'était ton premier instrument, d'ailleurs.
Oui, la guitare ne m'intéressait pas du tout. Et donc, c'est ouvert ce cours de percussion. Et j'étais content d'apprendre le solfège pour la batterie. J'avais envie d'élargir mon horizon, de découvrir des choses en dehors du rock'n'roll. J'ai bien aimé l'apprentissage du solfège. Ce que j'ai moins apprécié, c'est le discours universitaire sur la musique. Si en entrant dans la salle, vous alliez tapoter les cymbales du bout des doigts avant le cours, vous vous faisiez engueuler. Si vous preniez des marimbas avant le début du cours, le prof vous hurlait dessus, « Repose-moi ça !» Mais quelle horreur! Mais comme c'est décourageant de s'entendre dire « Pose cet instrument !» Non, non, ça c'est l'enfer pour moi.
Enfin, comme adulte, t'as pénétré dans l'enfer, vivant?
Là, je trouve pas quelque chose de semblable, non. Aujourd'hui, les gens vont jusqu'au bout de leurs craintes par l'intermédiaire d'Internet. Leurs peurs, leur anxiété sont poussées à l'extrême par les clics et les mots qu'ils tapent sur leur clavier. Maintenant, on a accès à tout. Avant, il fallait aller chercher. Il fallait faire des centaines de kilomètres pour faire une recherche ou avoir des retours. Maintenant, ça se passe instantanément. C'est un peu flippant. Ça devient l'enfer que les gens ne se traitent pas respectueusement, finalement. Et ils font pas attention jusqu'où ils vont. Et ça peut être traumatisant pour certains. Il y avait une sorte de beauté à la fréquentation des bibliothèques. Moi, j'adore ça. J'adore feuilleter les encyclopédies, lire sur des sujets que j'ignore complètement. J'aime prendre un livre au hasard, surtout les encyclopédies, les ouvrages de connaissances. Pour moi, ça marche plus que les ouvrages de fiction. J'aime apprendre sur l'histoire.
Au moment de Entering Heaven Alive,
je lisais des choses sur le judaïsme, sur l'existence ou pas du paradis dans le monde juif, ou dans le bouddhisme. Et ce sujet m'a amené au prophète Élie, qui est arrivé au paradis dans une boule de feu, au paradis donc, alors qu'il était vivant.
Voilà, ça vient de là alors.
C'est une chouette chose avec l'Internet, on a accès à ce genre de trucs. Je souhaite que nos belles bibliothèques, elles continuent, mais pour moi ce sont des temples. Mais c'est pas mal non plus de trouver des choses en quelques clics.
Alors, il y a une citation étonnante que je voudrais quand même que tu commentes, parce que tu as déclaré à Mojo, magazine britannique, que quand tu as travaillé avec Beyoncé, ça t'a fait envisager de renoncer carrément à chanter. Mais je me suis dit, mais enfin, est-ce que quand Bob Dylan entend chanter Pavarotti, ça le dissuade?
Well, you know, it's, I think...
Alors, pour parler plus précisément, plus concrètement, quand j'ai enregistré avec des gens comme Beyoncé ou Loretta Lynn, j'ai instantanément compris que je ne suis pas une voix. Je suis un chanteur parmi d'autres. Je chantonne, je joue un personnage. Alors que ces femmes-là, ces gens-là, qui ont une voix, sont de vraies chanteuses. Elles savent chanter. Et ça ne s'invente pas. Et quand vous êtes en présence de gens comme ça, que vous dites « Oh mon Dieu !» d'être ému aux larmes par la vibration des cordes vocales de quelqu'un, c'est fou. Ça vous donne immédiatement la chair de poule. Ça vous fait pleurer. C'est à se demander pourquoi cette émotion si forte, pourquoi si peu de gens ont ce talent. J'ai l'impression que dans le monde animal, prenez n'importe quel tigre, ils ont tous le même talent pour rugir, plus ou moins. Prenez un oiseau moqueur. Il chante aussi bien qu'un autre. Mais chez les humains, il doit y avoir 1% de la population qui sait chanter. Et ça leur vient naturellement. Alors bien sûr, les cours, ça compte. Mais c'est une vraie question. Vous passez votre vie à devenir un excellent batteur, mais pourquoi donc n'avez-vous aucun talent pour la clarinette? Moi, j'aimerais jouer de la clarinette. Ce serait super. Mais je n'ai aucun talent pour ça. Je ne sais pas dessiner, je suis incapable de peindre. Je n'ai aucun talent dans ce domaine. Pourquoi donc certains ont le talent et d'autres pas? Moi, quand je suis tombé amoureux de Bob Dylan, je me suis mis à me ficher éperdument des grands talents vocaux. Ça ne voulait plus rien dire pour moi. Il a fallu longtemps pour comprendre, avec l'âge, que le talent existe dans des catégories différentes. Aujourd'hui, je peux apprécier un petit groupe dans un restaurant qui, dans un coin, joue des reprises. À 21 ans, je détestais ça. Aujourd'hui, je peux apprécier un musicien comme ça qui tente un truc au clavier. Il essaie quelque chose. Et récemment, je développe un goût pour la musique d'ascenseur. Et vous savez pourquoi? La musique d'ascenseur, avec le temps, c'est devenu sujet de mépris et de haine. Ah, c'est nul, c'est faux, c'est de la merde, jetez-moi ça à la poubelle, c'est juste du bruit. Moi, je pense aujourd'hui que nous n'aurions pas dû abandonner la musique d'ascenseur. On a oublié pourquoi la musique d'ascenseur a été créée. La raison de cette musique, c'est que c'est trop gênant de se retrouver debout dans une boîte avec des gens qu'on ne connaît pas pendant 35 secondes sans avoir rien à leur dire. C'est complètement gênant. Il y a eu besoin d'inventer la musique d'ascenseur pour évacuer l'embarras. Moi, je dis qu'on s'est planté. On a abandonné les Monkees au profit des Beatles. On a considéré la musique d'ambiance comme une fausse musique. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas que les Monkees, c'est bien?
C'est un de mes groupes préférés des années 60, alors c'est simple.
Moi aussi!
Stepping Stone, c'est une chanson géniale.
Et moi, je m'en fous si c'est pas eux qui jouent sur leur propre disque. Je m'en fiche!
Vérigo Trip sur France Inter.
Is there any way I can sway you to stay for a minute or two? Yeah, that's what I wanna do.
Morning, Noon and Night, une nouvelle chanson signée Jack White, sans doute la plus proche de tout le nouvel album du style des White Stripes, qui semble mettre la même frénésie dans ses élaborations de sons en studio que dans ses interprétations. Comme on a pu d'ailleurs le constater lors de sa dernière prestation live télévisée, c'était en octobre 2020 à l'émission de télévision américaine Saturday Night Live. Et d'ailleurs, il avance pour expliquer cette énergie, une explication inattendue, sa pratique récente du jeûne.
C'est quelque chose que j'ai souvent fait auparavant de mon côté. Ça n'a rien à voir avec ma musique, avec l'écriture, ni rien. J'avais lu un bouquin de Upton Sinclair où il était question d'une cure de jeûne. Et je me suis intéressé à l'autophagie, un processus de régénération de la cellule découvert par un scientifique et qui lui a valu le prix Nobel. Il s'agit de laisser votre corps au repos et de laisser collecter les cellules à demi-mortes, les utiliser pour vivre. C'est prouvé scientifiquement. Le corps humain en a besoin, en fait. Quand on était des hommes des cavernes, on ne prenait pas trois repas par jour. Le petit déjeuner, c'est une invention des céréales Kellogg's. On prend comme une nécessité des choses qu'on fait tous les jours, mais notre corps n'est pas fait pour assimiler 3000 calories par jour. Je me suis renseigné sur tout ça, et j'ai voulu expérimenter le jeûne et voir ce qu'il changerait dans mon esprit, dans mon bien-être. Et ça m'a beaucoup intéressé. Et moi, je ne suis pas médecin. Je ne peux pas dire à qui que ce soit de jeûner comme si j'étais un scientifique. Et je ne suis pas non plus un hippie qui regarde sa boule de cristal. Ce n'est pas ça du tout. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité scientifique. Mais ce qui m'a passionné, c'est qu'on ne tombe pas lentement dans la léthargie sans pouvoir se relever du canapé quand vous arrêtez de manger.
Qu'est-ce qui t'est arrivé?
Ton corps dégage une énergie dingue dès le troisième jour. Le corps se mobilise pour te permettre d'aller trouver de la nourriture, d'aller chasser, d'aller cueillir.
Pourquoi tu t'es levé à faire des balades à 5h du matin?
Mais oui,
t'as pris ton vélo.
On n'arrive même pas à dormir tellement on déborde d'énergie. C'est dingue, c'est incroyable. C'est presque un truc à conseiller aux athlètes avant les Jeux Olympiques. Ce serait une sacrée expérience de voir le résultat, mais bien sûr, supervisé par des médecins. Mais de mon côté, ce que moi j'en ai retenu, c'est une immense énergie créative pour écrire et pour travailler. L'équivalent de 15 tasses de café.
You can't do that for a month. I mean,
tu peux pas faire ça pendant un mois.
Oui, c'est sur un court laps de temps. Il y a des gens qui font ça longtemps, mais moi j'ignore les conséquences que ça peut avoir. Pour moi, sur quelques jours, j'y trouve une source d'énergie qui m'intéresse beaucoup. Et j'en ai bien profité, j'ai écrit beaucoup de chansons. Et pas les plus rapides, les plus nerveuses, les plus rock'n'roll avec des guitares électriques, non. J'ai abouti aux chansons les plus lentes et sombres.
Donc ça t'a conduit à un état de grande sérénité.
Oui, le contraire de l'explosion d'énergie qui m'habitait. Très intéressant.
En somme, ça fait un équilibre.
Love is such a selfish thing. It's always crying me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll try my best to help you understand. I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name painted on it, but I don't know how to sail. Someone smarter than me and you might end up solving a clue or two, but could they make it happen with their hands? Couldn't they build it up from nothing with their hands? I could lose my mind just trying to understand. Love is such a selfish thing. It's always crying me, 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 and it's always
trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I'm trying my best to help you understand.
Un classique instantané, comme on dit, Love is Selfish, qui figurera dans le second album Entering Heaven Alive, que publiera Jack White cette année, en juillet prochain. Et oui, l'amour est tellement égoïste, il crie toujours moi, 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 et fout tous mes plans en l'air. Une banalité, c'est sûr, mais c'est tout un art de savoir dire les banalités avec fraîcheur. Merci beaucoup à Harold Manning à l'interprétation simultanée, merci beaucoup à Félix Delacour à la technique, merci évidemment à Stéphane Ronxin qui a réalisé l'émission. Qui d'autre ? Demain, on se retrouvera pour le concert en direct du Bataclan de Fontaines D.C. Juste après les informations, vous retrouverez Laurent Goumard et son côté club. Il recevra ce soir Baptiste W. Hamon et Nicolas Lee.